j'ai passé une grande partie de mon enfance avec des chiens. D'ailleurs, je ne compte pas le nombre de fois où je me suis retrouvé seul avec eux comme gardien. À plusieurs reprises, mes chiens ont eu des réactions pour le moins étranges. Aboyer ou grogner sans aucune raison apparente, regarder fixement à un endroit, au-delà de ce que l'œil humain peut percevoir, et j'en passe. Depuis 4 ans, j'ai un chat, et une chose est sûre, c'est qu'il aime jouer les chiens de garde. D'ailleurs, il est probable que vous l'entendiez en arrière-plan car il demande beaucoup d'attention. Dans cet épisode, pas d'histoire de fantômes ou d'esprits frappeurs. Simplement, des animaux de compagnie déjouant les plans de quelqu'un de mal intentionné. Je suis Romain Lemonnier, et vous écoutez Mauvaise Rencontre. Cette expérience est la raison pour laquelle je suis effrayé à l'idée qu'un intrus rentre chez moi. J'avais 10 ans à l'époque, et c'était les vacances d'été après avoir fini le CM2. Peut-être la deuxième ou troisième semaine de juin. Je ne me souviens plus vraiment pourquoi, mais ma mère devait aller dîner avec l'un de ses collègues de travail. Elle laissa ma grande sœur de 12 ans s'occuper de moi, et à vrai dire, ma sœur était plus là pour s'assurer que la maison ne parte pas en fumée que pour veiller sur moi. Bref. Cette nuit-là donc, ma mère part pour son dîner en nous disant qu'elle serait bientôt de retour. Je me souviens que j'étais dans le salon et que ma grande sœur était dans sa chambre à l'étage. J'étais également accompagné de Fenrir, notre terre-neuve, avec qui j'avais grandi. Malheureusement, à l'époque de mes 10 ans, il commençait aussi à montrer des signes de vieillesse. Il ne pouvait plus marcher, courir, ou même se lever comme auparavant. On devait constamment l'aider à se lever, l'emmener dans le jardin qui avait un porche. Ce dernier était relié à une allée que nous avions faite construire pour que Fenrir puisse se déplacer plus facilement. On devait également lui apporter ses gamelles d'eau et de nourriture, car il était toujours trop fatigué pour se lever. Donc je regardais la télé dans le salon, avec Fenrir allongé à côté du canapé. Soudain, j'entends un grognement bruyant. À ce moment-là, je coupe le son de la télé et me retourne pour voir Fenrir, grogner et renifler quelque chose. Quelques instants après, il se met à aboyer après je ne sais pas quoi. Je me retourne et je vois qu'il dirige son attention en direction de la porte-fenêtre qui donne sur le jardin. Alors comme il fait nuit noire dehors, je ne vois rien de particulier. Soudainement, Fenrir se lève sans trop d'effort et se met à grogner et à aboyer violemment. Souvenez-vous, en principe, il n'était pas capable de se lever tout seul, et ça depuis longtemps. Donc, de le voir se lever de cette manière, comme s'il avait retrouvé sa jeunesse, commence un petit peu à me faire flipper. Personnellement, je ne l'avais jamais vu dans cet état. J'étais limite en train de me dire qu'il était possédé. Il était toujours concentré sur la porte arrière, et avant que je n'aie eu le temps de réagir, Fenrir saute dans sa direction. Il se lève sur ses pattes arrière et commence à gratter la vitre, toujours en grognant et en aboyant. Dans un premier temps, j'ai pensé qu'un écureuil s'était probablement faufilé sur le porche et se trouvait désormais en face de la porte. Mais je me souvins que Fenrir n'était pas si agressif avec les écureuils. Quand il en voyait un, quand il était plus jeune, il avait tendance à lui aboyer dessus, mais c'était plus pour lui faire peur que pour lui faire du mal. Pour aller un peu plus loin, Fenrir n'était pas un chien agressif. Il était toujours gentil, que ce soit avec les gens ou même les autres animaux. De manière générale, il était très calme. Donc, de le voir sauvage comme ça, commençait sérieusement à me faire flipper. Et pour être honnête, c'était comme s'il dégageait une sensation meurtrière. Finalement, je me dirige vers la porte arrière, sur laquelle Fenrir continuait de gratter. Je l'ai poussé doucement, surprise qu'il ne me morde pas d'ailleurs, et j'ai approché mon visage de la vitre pour voir s'il y avait quelque chose, mais je ne voyais rien. Pendant ce temps, Fenrir continuait de gratter la porte en grognant et en aboyant, et désormais, il montrait aussi ses crocs qui dégoulinaient de bave. Je me suis dirigé sur ma droite, où il y avait un interrupteur permettant d'allumer le porche, et Fenrir revint immédiatement à sa place en continuant de gronder tout en grattant la porte. Puis, j'ai allumé l'interrupteur. La seconde après, je vois un homme habillé en noir, la tenue classique du cambrioleur, avec des gants, un masque de ski et tout le kit. À première vue, il semblait regarder à travers la fenêtre, le visage et les mains collées contre celle-ci. Quand j'ai allumé les lumières, il fut surpris et fit quelques pas en arrière. Il s'est ensuite tourné vers moi, et c'est comme si le temps s'était arrêté. Nous étions tous les deux figés, nous regardant fixement l'un l'autre pendant plusieurs secondes. N'ayant que 10 ans, je ne savais pas trop quoi faire. Instinctivement, je saisis rapidement la poignée de la porte sur laquelle Fenrir était toujours en train de gratter, et je l'ouvre. Avant que le voleur n'ait pu s'enfuir, Fenrir lui bondit dessus. Fenrir a d'abord mordu la jambe du gars pour ensuite sauter sur son bras. Le cambrioleur essayait de le frapper pour le faire lâcher, mais sans résultat. À ce moment, j'étais juste paralysé et je ne pouvais que fixer Fenrir qui continuait à le mordre férocement. Pour être honnête, j'avais plus peur de mon propre chien que du gars qui était sur le point de rentrer par effraction. Je ne l'avais jamais vu être aussi agressif de toute ma vie et je commençais à me dire qu'il allait tout simplement tuer ce gars. Finalement, le cambrioleur commence à crier à l'agonie, ce qui, je pense, a incité ma sœur à venir voir ce qu'il se passait en bas. D'ailleurs, je ne sais pas vraiment pourquoi elle n'est pas descendue directement après que Fenrir ait commencé à aboyer et à grogner, mais je m'égare. En voyant la scène qui se déroule sous ses yeux, ma grande sœur commence à flipper et appelle la police. Elle me dit finalement d'aller dans ma chambre, qui est à l'étage, donc j'y suis allé. J'ai couru jusqu'à ma chambre, et je suis resté là, choqué de ce que je venais de voir, et de la situation de manière générale. Un mec avait tenté de s'introduire chez moi, et mon chien l'avait probablement tué. Un moment plus tard, la police arrive, et ma mère aussi. Elle fonça directement vers ma chambre, et me serra fort dans ses bras. Sans doute le plus gros câlin qu'elle ne m'ait jamais fait d'ailleurs. Je me souviens qu'elle était aussi en train de pleurer, morte d'inquiétude, à l'idée que je puisse être blessé. Alors j'étais secoué, certes, mais pas blessé physiquement. Au bout d'un moment, je suis descendu et je vis ma sœur parler avec un policier, tandis que Fenrir s'était couché à côté d'elle, avec du sang plein sur la gueule. Je me souviens m'être dit « Fenrir vient de tuer quelqu'un ». Puis, une autre pensée me vint à l'esprit. Lorsque j'avais collé mon visage sur la vitre, pour voir pourquoi Fenrir était si énervé, le gars devait avoir son visage collé au même endroit, de l'autre côté. Nos regards s'étaient sans doute croisés sans que nous le sachions, avant que j'allume la lumière. Finalement, et même si le gars a perdu beaucoup de sang, il n'est pas mort. Ouf. Et pour être honnête, je ne sais pas vraiment ce qui lui est arrivé après, à part qu'il a dû être arrêté. J'imagine qu'il a dû avoir quelques points de suture. Après cet événement, ma mère s'est immédiatement renseignée pour acheter une nouvelle maison, et nous avons déménagé 1 ou 2 ans plus tard. Malheureusement, premièrement, avant que nous partions et suite à cet événement, j'ai développé une peur intense des intrus, à tel point que je ne pouvais plus regarder dehors lorsqu'il faisait nuit, car j'avais peur de voir un visage apparaître contre la vitre. Deuxièmement, quelques mois avant le déménagement, nous avons dû faire piquer Fenrir. Il était devenu beaucoup trop vieux et souffrait énormément. Inutile de vous dire qu'en 2014, j'ai perdu mon innocence d'enfant. Aujourd'hui, j'ai 18 ans et je suis désormais capable de regarder par la fenêtre même s'il fait sombre. Même si j'ai toujours peur des intrus, c'est moins pire qu'avant. Une chose est sûre, c'est que quand je déménagerai, il est certain que je prendrai un gros chien pour vivre avec moi. Je serai éternellement reconnaissante envers toi, Fenrir, car si tu n'avais pas été là, qui sait ce que ce type aurait pu nous faire à ma sœur ou à moi. J'ai grandi dans une petite ville rurale où il ne se passe jamais rien. Le genre d'endroit où il est normal de ne pas verrouiller sa porte d'entrée et où le voisin le plus proche est à 2 km, voire plus. À l'époque, nous avions un vieux chat nommé Tag. Il avait un petit côté drama king, comme beaucoup de chats, mais on l'adorait. Une nuit d'été, je devais avoir 9 ou 10 ans. Le chat commence à agir de manière étrange. Pour contextualiser un petit peu, en général, Tag dormait dans ma chambre. Il se mettait en boule à côté de moi jusqu'à ce que je m'endorme, et il se levait la nuit quand l'envie lui prenait pour aller faire sa vie de chat. De temps en temps, il miaulait ou essayait de me réveiller quand il voyait que sa gamelle était vide et qu'il avait besoin d'un petit encas nocturne. En général, si je l'ignorais, il laissait tomber, ou bien il allait tenter sa chance auprès de ma mère. Pourtant, cette nuit-là, il frappa la porte de la chambre de mes parents jusqu'à ce qu'il puisse rentrer et miaula suffisamment fort pour tous nous réveiller. Nos chambres sont l'une à côté de l'autre, donc j'appelle Tag pour qu'il revienne se coucher parce qu'il était 2 h du matin. À ce moment-là, il n'en a rien à faire et continue de miauler. Au bout d'un moment, ma mère finit par se lever en soupirant et descend à la cuisine avec Tag, qui la suit tout en continuant de miauler bruyamment. Ma mère lui dit que son bol est plein et qu'il n'a aucune raison de miauler, tandis qu'il l'accompagne vers la porte de la cuisine menant à l'extérieur. Je précise que Tag était un chat qui rentrait et sortait quand il voulait. Il avait sa propre chatière dans le garage, et par conséquent, il n'avait pas besoin de nous pour sortir. En suivant le chat, ma mère vit que la porte de la cuisine était restée ouverte. Elle pensa que mon frère devait avoir oublié de la fermer, ne laissant la moustiquaire comme unique protection contre l'extérieur. Ne voulant pas la laisser ouverte indéfiniment en attendant que le chat se décide à sortir, elle finit par la fermer. Une fois la porte fermée, ma mère fait demi-tour pour retourner dormir. En traversant le salon, elle voit que mon frère est endormi sur le canapé. Elle lui dit d'aller se coucher dans sa chambre, puis elle retourne se coucher en prenant soin de bien fermer la porte de sa chambre pour que Tag ne rentre pas à nouveau en la poussant. Quelques minutes plus tard, Tag recommence à miauler à la porte de mes parents. Je lui propose une friandise, que je garde toujours dans ma chambre, mais rien à faire, il continue de miauler. Pour éviter qu'il réveille une nouvelle fois toute la maison, je l'attrape et je l'emmène dans ma chambre en fermant la porte derrière moi pour l'inciter à venir dormir. Pendant que j'essayais de me rendormir, Tag continuait de miauler devant ma porte, me faisant comprendre qu'il voulait sortir. Je finis par craquer et lui ouvre la porte. Je n'ai même pas le temps d'ouvrir entièrement la porte qu'il se faufile et descend immédiatement vers la cuisine. À ce moment-là, j'entends comme un bruit de porte qui claque. Comme j'ai trois frères et sœurs plus âgés, quelqu'un est toujours debout à une heure tardive, que ce soit devant la télé, soit pour aller grignoter quelque chose, donc je n'y porte pas vraiment attention. Quelques instants plus tard, le chat revient finalement dans ma chambre, mais au lieu de venir se blottir contre moi, comme à son habitude, il reste au pied du lit et regarde fixement ma porte. Je finis par me rendormir jusqu'au petit matin, lorsqu'une agitation me sort de mon sommeil. Je descends dans la cuisine et je vois mes parents au téléphone avec la police. Ils s'étaient levés à l'heure habituelle pour aller travailler, et en préparant le café, ma mère était allée chercher ses bagues dans un petit plat à bijoux qu'elle laisse près de l'évier. Elle avait l'habitude de les enlever pour rincer la vaisselle et remplir la machine. Ce matin-là, le plat était vide. Étant donné la taille de la ville, le shérif nous envoie son adjoint, et alors que mon père sort pour le rencontrer, il s'aperçoit que notre quad n'est plus là non plus, et que sa clé n'est plus sur le porte-clés. À cette heure-ci, toute la maison est levée et nous commençons à réaliser que, lorsque nous étions en train de dormir, un voleur était entré dans la maison pour voler les clés du quad et en a profité pour prendre les bagues de ma mère. L'adjoint nous a demandé si nous avions une idée de quand c'était arrivé et mes parents ont répondu que non. Ma mère se souvint qu'elle avait vu mon frère sur le canapé la nuit précédente et lui demanda à quelle heure il s'y était installé. Mon frère, qui était étudiant de première année à l'université et à la maison pour l'été, lui répondit qu'il était allé se coucher entre 21h et 22h. Il lui a demandé ce qu'elle voulait dire car sa chambre était au sous-sol et il n'aurait rien entendu si quelque chose s'était passé à la cuisine. Ma mère lui dit « Mais tu étais dans le salon quand je suis allé nourrir le chat. J'ai même fermé la porte que tu as laissée ouverte. D'ailleurs, je t'ai dit de ne pas dormir sur mon canapé et d'aller dans ton lit pendant que je remontais. » Mon frère répondit à ma mère qu'il était au sous-sol depuis le dîner et qu'il n'était pas remonté. Et pour cause, il regardait un film dans le salon du sous-sol avant d'aller dormir dans sa chambre. Ma mère devint pâle et commença à réaliser que le chat avait essayé de nous avertir. Quelqu'un était rentré dans la maison et le voleur s'était caché sur le canapé sous une couverture quand elle était descendue à la cuisine. Il est sorti lorsqu'elle était retournée se coucher, et c'est sans doute le bruit que j'avais entendu auparavant. Le flic nous a dit que quelqu'un d'aussi confiant connaissait probablement notre famille et nos habitudes, mais il ne comptait pas sur le fait que le chat était si protecteur. Il avait probablement l'intention de voler plus, mais il avait peur que Tag réveille toute la maison. Cela fait 20 ans depuis que cette histoire s'est passée, et le voleur n'a jamais été attrapé. Ce qui est perturbant, c'est de savoir que c'était probablement quelqu'un qui était déjà venu chez nous en tant qu'ami. Ok, je vais commencer par donner un peu de contexte à cette histoire afin que vous compreniez la situation. Je suis une jeune fille de 16 ans à l'époque et mesurant 1m50. J'avais deux chiens de la même portée et étant donné que c'était des boxers, ils étaient relativement gros et assez protecteurs. Vince, le premier, était assez grand et fin mais surtout très calme. Le genre de chien à pouvoir dormir même sous la tempête. Son frère Maury était plus petit, mais très musclé. Généralement, ces deux-là étaient avec moi H24 parce que ma mère travaillait beaucoup et j'étais seul la plupart du temps et parfois même après la nuit tombée. Ça ne m'a jamais vraiment dérangé car j'avais l'habitude de rester seul à la maison depuis mes 11 ans et il ne m'est jamais venu à l'idée que j'avais une quelconque raison de m'inquiéter. Un soir où ma mère travaillait tard, je faisais quelques tâches ménagères, nourrir les chiens, faire la vaisselle, ce genre de choses quoi. Je poursuivais la routine que j'avais l'habitude de faire quotidiennement depuis des années. Alors que j'allais sortir les poubelles, je me suis dirigé vers la porte quand Maury se mit devant moi. J'ai essayé de le contourner en lui faisant comprendre qu'il était gênant, mais il refusait de bouger. Sur le coup, c'était bizarre, mais en y repensant quelques années plus tard, je pense qu'il essayait de m'empêcher de sortir de la maison. On a continué comme ça pendant un moment, moi qui essayais de passer et lui qui ne voulait pas bouger. C'était un chien assez lourd, donc il était difficile de le soulever et encore plus de l'éloigner de quelque chose. Pendant tout ce temps, Vince était couché dans son panier. Je précise que, de ma cuisine, on peut voir le salon et la salle de bain. Généralement, on utilisait la porte latérale de la cuisine pour rentrer et sortir car elle était rattachée à un auvent, ce qui permettait de rester à l'abri en cas de pluie. Après plusieurs minutes et une ultime tentative de faire bouger Maury, j'ai entendu quelque chose que je ne m'attendais pas du tout à entendre. Le chien grogna. Alors, ce n'était pas inhabituel qu'il grogne, puisqu'il le faisait assez régulièrement. Ce qui était inhabituel, par contre, c'était qu'il grognait sur moi. Il n'avait jamais fait ça auparavant, même pas une fois. Mais pour cette seule et unique raison, j'ai décidé de ne pas sortir la poubelle. Je l'ai simplement mise de côté dans l'idée de la sortir plus tard. Un peu plus tard, je dirais environ une trentaine de minutes après, j'étais assise dans mon fauteuil et je regardais un film en attendant que ma mère rentre. Alors que je regardais mon film, j'ai entendu comme un bruit. Comme si quelqu'un frappait à la porte, mais très doucement. Comme évoqué plus tôt, on peut facilement voir le salon depuis la cuisine, donc j'ai entendu le bruit très distinctement. Comme il faisait déjà nuit et que ma mère était supposée arriver bientôt, je me suis dit que ça devait être elle qui frappait car elle avait peut-être oublié ses clés. Je me suis donc levé pour aller voir et j'ai regardé le crochet au niveau de la porte. Les clés de ma mère n'y étaient pas. Pour certains, ce détail serait sans doute sans importance. Mais pour moi qui connais ma mère, ça change tout. Voyez-vous, ma mère a ses habitudes, pour ne pas dire des tocs. Et croyez-moi, si elle avait oublié ses clés, elle serait simplement accrochée à leur emplacement. Dans ce cas, si ce n'était pas ma mère, qui viendrait à une heure aussi tardive frapper chez quelqu'un ? Je pris une longue inspiration avec la ferme intention de ne pas ouvrir cette porte. Et si la personne frappait à nouveau, je lui dirais simplement que je ne suis pas disposé à lui ouvrir et qu'il devrait partir. En y repensant, j'aurais vraiment préféré ne pas avoir regardé par la fenêtre. J'aurais simplement appelé ma mère en restant hors de vue, mais non, il a fallu que je passe devant cette fenêtre. Et je me suis retrouvé nez à nez avec une silhouette qui se trouvait de l'autre côté. Il faisait particulièrement sombre ce soir-là. La seule source de lumière provenait de l'éclairage de mon voisin qui brillait depuis son porche. De cette manière, je ne pouvais voir que quelques détails sur la personne qui était dehors. Il était assez grand, je devais même me rapprocher de la fenêtre pour pouvoir voir son visage. Ses longs cheveux ressemblaient à une ombre flottant sur ses épaules. Le seul trait du visage que je pouvais voir, c'était ses yeux. J'aurais espéré ne jamais les voir. Ils étaient larges et me dévisageaient fixement, et il semblait y avoir une espèce d'étincelle dans son regard alors qu'il se redressait pour me parler. Il fit un pas en direction de ma porte et monta sur la première des deux marches menant à l'entrée et bafouilla quelque chose du genre « Ma voiture est en panne, est-ce que je peux utiliser votre téléphone ?» Tout de suite, j'ai pensé à toutes ces choses que j'ai entendues à propos de ce qui était arrivé à un adolescent seul dans sa maison, mais j'ai essayé de garder mon calme. Je ne sais pas ce que c'est, mon instinct sans doute, mais quelque chose me disait qu'il ne fallait surtout pas ouvrir cette porte. J'ai répondu un non rapide et des excuses en espérant qu'il dise la vérité et qu'il aille chez le voisin. Mais il n'a pas bougé. Au lieu de ça, il a simplement répété, plus fort cette fois,
« Ma voiture est en panne. Est-ce que je peux utiliser votre téléphone ?»
Pendant un court instant, je me suis dit qu'il ne devait pas avoir entendu ma réponse. Mais encore une fois, mon instinct me dit qu'il avait parfaitement entendu et qu'il avait créé cette excuse pour rentrer chez moi. J'ai repris un peu confiance en moi et lui ai répondu, moi aussi en haussant un peu le ton, « Je suis désolé, je ne peux pas vous aider. Allez chez le voisin. » Il s'arrêta, comme s'il réfléchissait à ce qu'il devait faire. Puis, il frappa de nouveau sur la porte, plus fort cette fois. Mon cœur se mit à accélérer tandis que je le regardais par la fenêtre. Ne réagissant pas, il commença à tambouriner la porte. J'ai alors fait un pas de retrait, en priant qu'il parte, ou bien que ma mère arrive bientôt. J'étais une fille plutôt calme, mais ma mère était une enfant de la campagne plutôt badass. Le genre à se balader avec un couteau de chasse. Si elle avait été là, elle l'aurait sans doute plié en quatre, mais bon, j'étais seul. Après un court instant, il se mit à tambouriner la vitre. Mon cœur battait à 1000 à l'heure. Est-ce que je devais me cacher, fuir ? Comme par hasard, mon téléphone était resté dans la pièce à côté. Je ne pouvais pas prendre le risque de détourner le regard et de laisser ce gars casser la vitre et réussir à rentrer. Le bruit des coups résonnait dans mes oreilles et apparemment dans celle de Maury aussi. Il s'est dirigé lentement vers la porte, l'écrou apparent, et commença à aboyer bruyamment. Le gars s'arrêta un instant, essayant de voir par la fenêtre où se tenait Maury. Quand il a arrêté d'aboyer, le gars a fait l'erreur d'essayer d'ouvrir la porte d'entrée en tournant la poignée. C'est là que Vince s'est réveillé. Je vous jure que, pour un chien qui dormait quelques secondes auparavant, je ne l'avais jamais vu bouger aussi vite. En même pas deux secondes, Vince avait ses pattes sur la porte, grognant comme Cerbère. Le mec a été tellement surpris qu'il a sursauté et tomba à la renverse. Je l'ai vu se relever et se mettre à courir en disant quelque chose que je n'ai pas vraiment compris. C'est à ce moment-là que j'ai vu une autre silhouette sortir de l'ombre et s'enfuir avec le premier. Ma mère arriva à la maison peu de temps après. Entre-temps, j'avais sprinté à travers la rue pour rejoindre la maison voisine. Nous avons appelé la police en leur expliquant ce qu'il venait de se passer et mon voisin avait sorti son fusil de chasse et voulait essayer de choper le gars. La police nous a informé que quelqu'un avait essayé de crocheter la serrure de la porte d'entrée, mais il y avait plein de trucs devant qui empêchaient son ouverture. Ce soir-là, je suis allée me coucher en étant complètement déboussolée, mais aussi hyper reconnaissante d'avoir deux chiens pour veiller sur moi. Quelques semaines passèrent et nous n'avions plus de nouvelles de la police, donc j'ai essayé d'arrêter de penser à cette histoire. Environ un mois s'est écoulé sans que rien ne se passe, mais j'avais toujours peur de rester seul chez moi. Puis, un jour, nous avons reçu la visite des policiers. Ce qu'ils m'ont dit me glaça le sang. Et pour être honnête, j'en ai encore des frissons rien que d'y repenser. Ils ont fini par attraper les gars et ont réalisé qu'ils me surveillaient. Oui, je précise qu'ils étaient plusieurs. Il y avait au moins deux gars qui m'observaient depuis plusieurs mois. Ils avaient plusieurs photos de moi avec des mots écrits dessus. Le genre de mots qu'on n'a ni envie de lire, ni envie d'entendre. Les policiers ont rapidement changé nos serrures car il y avait potentiellement un troisième gars qu'ils n'avaient pas encore attrapé. On a fini par déménager quelque temps après. J'imagine que les stalkers ne s'attendaient pas à ce que les chiens soient à l'intérieur. Bien que notre jardin était clôturé et que les deux passaient le clair de leur temps dehors en temps normal, il avait fait tellement chaud ce jour-là que j'avais décidé de les garder à l'intérieur. Je remercie l'univers tout entier d'avoir eu mes chiens à mes côtés. Par la suite, ma mère n'a plus jamais travaillé aussi tard, ce qui, honnêtement, me convenait parfaitement. Alors, au troisième gars qui n'a jamais été retrouvé, J'espère ne jamais te recroiser. Cet épisode arrive à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Je précise qu'aucun animal n'a été blessé durant l'enregistrement de ce podcast. Et si vous avez envie de partager une histoire effrayante, vous pouvez l'envoyer à l'adresse mauvaiserencontre@gmail.com. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, gardez l'œil ouvert.